1989, alors qu'il travaille au CERN, l'informaticien britannique Tim Berners-Lee propose à sa hiérarchie un projet. Le partage du document informatique basé sur l'échange instantané d'informations. En déposant tous les documents sur un réseau unique, son ambition est de faciliter la communication et les travaux des chercheurs et chercheuses du CERN. C'est ainsi que naît le World Wide Web, plus connu sous son petit nom de Web. À partir de 1990, avec l'ingénieur belge Robert Caillot, ils en développent les trois technologies fondatrices. Les adresses web, le protocole de communication HTTP et le langage informatique HTML. Le développement par la suite du premier serveur et du premier navigateur web ont achevé de poser les jalons du premier réseau mondial de mise à disposition de connaissances pour tous. Au fil de son développement et de sa démocratisation, le web a contribué à faciliter l'accès aux informations, notamment les informations issues de la recherche scientifique, les publications, les données de recherche ou encore les outils. Depuis ce moment, le créateur du web milite pour l'open access et encourage la libération des données. Selon lui, chaque consommateur devrait avoir accès à tous les services et chaque service devrait avoir accès à tous les consommateurs. Fin 2018, Tim Berners-Lee annonce vouloir dédier son temps à la startup Inrupt, qui soutient la diffusion et le développement d'un logiciel open source, Solid. C'est dans cet héritage que nous vous emmenons, dans ce nouvel épisode de l'Apostrophe, à la découverte des biens communs numériques et des logiciels open source. L'Apostrophe est un podcast produit par l'Institut Mines Télécom, avec le soutien du Carnot Télécom et Société Numérique. Pour en parler, nous recevons Nicolas Julien, économiste et professeur à IMT Atlantique sur le campus de Brest. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également directeur du groupement d'intérêt scientifique Marsouin, un réseau de recherche en sciences humaines et sociales sur la société de l'information en Bretagne. Aujourd'hui, nous allons donc parler de commun numérique. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient cette notion ?
Alors, la notion de commun numérique est un mot qui est assez ancien, qui vient du travail d'une grande économiste, Elinor Ostrom, qui a travaillé dans les années, fin du siècle dernier, sur l'idée que des groupes de personnes puissent gérer une ressource qui est rare, c'est-à-dire une ressource qui peut se détruire si on la gère pas bien, et que ces personnes peuvent gérer la ressource collectivement mieux que d'autres types d'institutions comme le marché ou l'État. Donc le type de ressources dont on parle, c'est par exemple des pêcheries, donc des zones de pêche qui sont gérées par des groupes de pêcheurs. Alors on a un exemple pas loin d'ici à Brest, où la coquille Saint-Jacques de Brest est gérée par les pêcheurs de coquille Saint-Jacques, aidés par l'État et l'Ifremer. Donc Elinor Ostrom a appelé ça des communs, puisqu'il y a une gestion en commun d'une ressource qui est rare et qu'il faut préserver. Cette ressource-là, elle est utile à la société, parce que si on la gère mal, elle va disparaître. Et si on n'a plus de coquille Saint-Jacques en rade de Brest, déjà c'est triste pour les mangeurs de coquille Saint-Jacques, mais c'est aussi très compliqué pour l'équilibre, évidemment, de la rade. Donc, à partir de l'arrivée d'Internet, on a vu apparaître des gestions collectives d'autres choses numériques, et on avait l'impression qu'elles étaient gérées un peu de la même manière que ces communs, ce qu'on appelait physiques. Alors, on peut penser aux logiciels libres, on peut penser à Wikipédia. Donc, c'est des choses qui sont gérées par des gens qui, ensemble, décident de faire un projet et ensemble décident de travailler, de contribuer à ce projet. Et il se trouve que ces communs numériques, pour des raisons qu'on pourra expliquer un peu plus tard, fonctionnent de la même manière que les communs physiques. Une gestion de la participation, de la contribution qui ressemble à la gestion de la ressource physique.
Est-ce que vous avez des exemples à nous donner de logiciels libres, puisque vous avez parlé de logiciels libres ?
Alors, on a l'impression que les logiciels libres, c'est des choses un peu éloignées de notre quotidien, nous qui ne sommes pas des informaticiens. Mais en fait, tout le monde utilise des logiciels libres. Donc, un logiciel libre, comme un commun numérique, c'est quelque chose qui est développé par des personnes ou des entreprises de plus en plus ensemble et que chacun est libre d'utiliser, de modifier comme on le veut. Alors, des exemples de logiciels libres, vous avez Linux, c'est pas très connu forcément par tout le monde. C'est un système d'exploitation, vraiment le cœur de ce qui fait fonctionner une machine. Sauf que Linux a été utilisé pour créer Android, qu'on connaît un petit peu plus aujourd'hui. Alors, le concurrent d'entre eux, c'est Apple, bien sûr. Apple aussi a utilisé des logiciels libres pour faire ses systèmes d'exploitation, faire tourner ses ordinateurs. Voilà des exemples de logiciels libres qu'on utilise tous les jours. Il y en a plein d'autres, évidemment.
Alors, si on fait un petit peu l'état des lieux des logiciels libres, à quand remontent les premiers logiciels libres ?
Alors ça remonte à l'histoire de l'informatique. Alors l'idée de logiciel libre tel qu'on la connaît aujourd'hui, le logiciel libre moderne, c'est-à-dire l'idée vraiment de organiser la production collective, aussi bien d'un point de vue technique que juridique, avec des protections spéciales ou du logiciel, ça remonte au milieu des années 80. Ça a été inventé dans les années 80 par un monsieur qui s'appelle Richard Stallman, qui a cette idée. Alors, c'est un chercheur du MIT, donc aux États-Unis, et il a cette idée que si on pouvait organiser de manière légale, structurer la production de logiciels, ça serait meilleur pour l'innovation, pour la production et pour la qualité des logiciels. Donc ça, c'est le logiciel libre moderne, on va dire. Mais l'informatique, il faut savoir que l'informatique, et notamment le logiciel, a toujours été un endroit où les gens ont collaboré, se sont échangés des programmes, et ça depuis le début. En fait, dans les années 60, le logiciel, ça n'existait pas. On achetait des machines. Donc, vous achetiez une machine pour aller sur la Lune. Vous achetiez une machine pour faire la météo. Et dessus, on mettait des logiciels, mais qui étaient produits aussi bien par vous que par une autre université. Les fabricants de machines comme IBM vous fournissaient ces logiciels sans coût, gratuitement. En fait, c'était dans le package, quoi. Et ils étaient échangés entre les personnes. Donc, cette idée de collaborer, de co-développer des logiciels, elle a toujours été présente en informatique, notamment dans la recherche. Et c'est assez récemment, finalement, qu'on a eu besoin de privatiser le logiciel pour fixer un prix dessus. C'est arrivé dans les années 70, dans les années 80.
Alors justement, d'après ce que vous dites, on a l'impression qu'un logiciel libre est forcément un logiciel gratuit. Est-ce que c'est le cas ?
Un logiciel libre, c'est un logiciel que vous pouvez récupérer. Souvent, la plupart du temps, il est accessible sur le web aujourd'hui, donc vous pouvez le récupérer et vous avez la sensation qu'il est gratuit. Alors quand on dit gratuit, ça veut dire que on n'a pas besoin de payer l'autorisation d'utiliser un logiciel. Souvent, on parle de licence, vous payez une licence. En fait, c'est un peu un faux ami, parce qu'une licence, c'est une autorisation. Donc si on fait un petit peu de droit du logiciel, quand vous produisez un logiciel, comme vous produisez un livre ou un écrit, vous avez ce qui s'appelle un droit d'auteur qui s'applique automatiquement. Donc, c'est vous le propriétaire de ce logiciel. Il faut qu'il soit un petit peu gros, que ça ne soit pas des choses très très simples. Mais en gros, c'est vous l'auteur ou votre employeur si vous êtes un salarié. Et donc, à partir du moment où vous êtes un auteur, vous êtes le propriétaire, vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec. Le garder pour vous, autoriser d'autres gens à l'utiliser. Et vous avez aussi le droit de fixer les conditions pour autoriser à l'utilisation. Donc les conditions d'autorisation, c'est ce qu'on appelle une licence. Hein, comme une licence 4 dans un bar, vous avez le droit de vendre de l'alcool. Et bien une licence de logiciel, vous avez le droit d'utiliser un logiciel. Et dans la licence, on vous dit ce que vous avez le droit de faire et ce que vous devez faire en échange, par exemple payer. Dans un logiciel libre, on vous dit ce que vous avez le droit de faire. Vous avez le droit de regarder le logiciel, vous avez le droit de lire le code, hein, la manière dont il a été programmé, donc en langage compréhensible par un humain, de le modifier et de le redistribuer. C'est ça les trois grandes libertés du logiciel libre. Donc, accéder au code, le modifier et le redistribuer. Éventuellement, on peut vous demander de l'argent pour ça, ou au moins l'émetteur, mais vous voyez bien que si chacun a le droit de redistribuer, hein, c'est un principe d'économie assez classique, ben, on va redistribuer un peu moins cher. Et à la fin, ça va atteindre zéro. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression que le logiciel libre, c'est un logiciel gratuit. Alors, il ne faut pas oublier quand même que quand on parle de logiciel, on parle de quelque chose qui peut être assez compliqué à utiliser, à implémenter. C'est aussi quelque chose qui évolue tout le temps parce qu'il peut y avoir des erreurs, parce qu'il y a des nouveaux besoins qui arrivent, etc. Donc, évidemment, si le code du logiciel est gratuit, eh bien, l'utilisation n'est pas sans coût, sans effort pour un individu ou pour une entreprise. Et bien sûr, le code d'un logiciel libre ou le produit qui en est dérivé peut paraître gratuit, mais en fait, vous avez beaucoup d'efforts et donc de coûts pour un économiste pour l'utiliser et éventuellement, vous allez utiliser des entreprises, des entreprises de services par exemple, des prestataires en général pour vous aider à utiliser ce logiciel, pour vous aider à le faire évoluer, pour vous aider quand vous êtes une organisation à l'implémenter dans votre système d'information. Et tous ces éléments-là d'aide sont facturés comme tout service. Donc, utiliser un logiciel, ça ne va pas sans coût. Parce qu'il faut du temps, il faut des informaticiens, il faut des réflexions sur l'adaptation du logiciel à vos besoins. Et ces coûts-là, eh ben, soit vous les faites vous-même, vous prenez le temps, vous êtes une organisation, vous payez des gens pour le faire, soit vous sous-traitez. Et c'est comme ça qu'on crée un marché de services autour du logiciel libre, qui est un marché très important aujourd'hui en France et en Europe et dans le monde.
Alors, si on revient à une vision un petit peu plus globale de ce marché des logiciels libres, vous avez dit en introduction de cette émission qu'il y avait beaucoup plus d'utilisateurs qu'on ne le pensait de ce type de logiciel. Est-ce que vous avez une idée en matière du nombre d'utilisateurs? Quelle proportion les utilisateurs de logiciels libres représentent par rapport au nombre d'utilisateurs du marché des logiciels?
Alors, si vous allez sur Google, sur la plateforme de Google, je crois que vous avez plusieurs millions de logiciels différents. Donc, quand on parle de logiciels ou d'utilisateurs de logiciels, eh bien, chacun d'entre nous, on utilise des centaines de logiciels sur nos téléphones, sur nos ordinateurs. Mais ça, c'est la face visible, justement, de l'iceberg. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on utilise aussi énormément de logiciels quand on accède au service. Quand vous allez chercher votre mail sur Gmail, si vous avez Gmail, ou sur Zimbra, si vous utilisez un logiciel libre. Tiens, Zimbra, c'est un logiciel libre. En fait, vous utilisez plein de logiciels. Il y a un serveur qui a donc un système d'exploitation, souvent Linux, qui utilise des logiciels de gestion du web pour accéder aux pages web. C'est souvent Apache ou d'autres logiciels plus modernes aujourd'hui. Ce sont des logiciels libres. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà des logiciels que vous avez sur vos terminaux, hein, les choses que tout le monde utilise, l'infrastructure de l'informatique, du web et de l'informatique en général, elle est basée sur énormément de logiciels. Et la plupart du temps, ces logiciels sont des logiciels libres. Les premiers logiciels libres qui ont été créés, je vous rappelle l'histoire, hein, l'informatique, c'est donc la recherche, MIT, mais aussi les professionnels de l'informatique, pour qui il était plus facile d'avoir des logiciels qui étaient ouverts, plus facile de modifier les logiciels que d'attendre qu'un éditeur le fasse. Et donc, tous les logiciels d'Internet ont été créés soit dans les universités, dans les années 70, soit ensuite dans les entreprises, mais sont basés sur des logiciels libres. Donc, pour résumer, dès que vous allez sur le web, dès que vous utilisez Internet, forcément, vous utilisez des logiciels libres. Des logiciels libres, vous en avez dans les Freebox. Des logiciels libres, vous en avez dans tous les serveurs. On parle de cloud, informatique en nuage, OVH, Google Cloud, etc. Tous ces grands acteurs-là, ils ont basé toute leur infrastructure sur des logiciels libres. Donc, tout le monde utilise des logiciels libres sur leur propre machine ou de toute façon de manière indirecte.
Si on revient à la création de ces logiciels libres, on a l'impression qu'ils sont globalement tous construits sur le même modèle.
Alors, le modèle du logiciel libre, on a parlé des communs au départ, c'était l'idée de que des acteurs qui ont des besoins proches se mettent en commun pour développer quelque chose. Un logiciel libre, de manière assez classique, ça commence par quelqu'un qui commence un projet ou quelques personnes qui commencent un projet et qui décident de l'ouvrir, de le mettre sur des plateformes de permettre à d'autres de participer au projet. Alors, ça tombe bien qu'on ait cette discussion puisque Linux, donc je vous rappelle, hein, le noyau d'un système d'exploitation, ce qui est utilisé par Android, a eu 30 ans ces jours derniers. Ça a commencé par un jeune étudiant, Linus Torvalds, qui a posté alors sur les forums de l'époque en disant « Voilà, j'ai commencé à faire un petit logiciel, ça fait quelques petits trucs, on peut l'utiliser comme ça pour apprendre ce que c'est un système d'exploitation, du type Unix, c'est un type de système d'exploitation. Bon, ça ne fera pas grand-chose, mais si vous avez envie de l'essayer, de jouer avec moi, en gros, de participer, eh ben, il est disponible et on peut travailler. » Aujourd'hui, évidemment, il y a des plateformes beaucoup plus modernes qui sont basées sur un logiciel que Linus Torvalds a développé, d'ailleurs, qui s'appelle Git. Vous avez peut-être entendu parler de GitLab ou de GitHub. Mmh. Donc ça, c'est des grosses plateformes qui permettent à des équipes de partager un logiciel, chacun de travailler un petit peu dans son coin, et une fois que c'est prêt, de proposer ses modifications à la version générale du logiciel, et comme ça, tous ensemble, de faire avancer le projet Hein, logiciel libre, c'est un projet.
De manière collaborative.
De manière collaborative. Donc, quand on parle de logiciel libre, en fait, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la partie légale. C'est un logiciel que vous avez le droit d'utiliser, que vous avez le droit de modifier, que vous avez le droit de redistribuer. Donc ça, c'est la partie légale. C'est la licence libre qui définit qu'un logiciel est un logiciel sous licence libre. Et puis, vous avez la partie que j'ai envie d'appeler commun numérique, un projet qui est développé par plusieurs personnes, éventuellement plusieurs institutions, parce que beaucoup de logiciels libres aujourd'hui sont développés par des entreprises. Et ces entreprises collaborent ensemble, ou ces personnes collaborent ensemble pour développer un projet et pour discuter ensemble de l'évolution de ce projet. Donc, pour répondre à votre question, tous les logiciels sous licence libre sont utilisables par tous et modifiables par tous. Seuls les logiciels où il y a vraiment plusieurs personnes différentes qui travaillent ensemble et qui décident ensemble de l'évolution du logiciel sont ce qu'on peut appeler des communs numériques et j'ai envie de dire des projets de logiciels libres. Cette distinction, elle est importante parce que on voit bien aujourd'hui que quand quelqu'un développe tout seul un logiciel, et ça arrive, hein, la plupart des logiciels sous licence libre sont développés par une personne et qui met son code sous GitLab, par exemple, ou GitHub, eh bien, en fait, cette personne, elle est, c'est un projet qui est dangereux parce que si cette personne n'a plus le temps ou pire, hein, arrête de travailler, un accident, ben, le projet, il disparaît. Et on a eu des exemples assez récents, en fait, de ce qu'on appelle des librairies, donc des bases techniques qui étaient développées par une personne. Il y a eu une erreur dedans. Donc, il y a eu des attaques sur cette librairie et donc sur des serveurs web. Et en fait, la personne n'avait pas le temps de s'en occuper ou ne pouvait plus s'en occuper. Et du coup, plein de sites web ont été attaqués et détruits à cause de cette erreur-là, d'une librairie qui était utilisée par Google, Microsoft, etc. Donc, pour moi, ça, ce n'est pas un projet libre. C'est un logiciel sous licence libre. Mais ce n'est pas un projet où il y a plusieurs personnes, qui est solide parce qu'il y a plusieurs personnes, qui est organisé, qui permet de discuter.
Ça pose justement la question des sources et ressources nécessaires au développement de ce type de logiciel. D'où est-ce qu'elles proviennent, toutes ces ressources ?
Alors, ça peut paraître un peu bizarre de se dire que des gens vont participer, on va dire gratuitement, bénévolement, à la production d'un logiciel. Aussi étrange que ça puisse paraître, certaines personnes aiment développer, là, programmer, réfléchir à des questions informatiques qui peuvent être compliquées et trouver une solution à un besoin ou à un défi technologique. Donc, il y a d'abord, chez les individus, chez les gens qui apprennent l'informatique ou qui se spécialisent dans l'informatique, dans le logiciel libre, ce défi intellectuel. C'est vraiment quelque chose qui est très important et qu'il ne faut pas négliger. La plupart de ces gens-là qui deviennent spécialistes d'un problème, d'un logiciel, d'une solution informatique, d'un projet informatique et un projet de logiciel libre, ces personnes-là, la plupart du temps, elles trouvent du travail. Elles sont payées par des institutions. Des institutions publiques, mais aussi des institutions privées, des entreprises qui payent des développeurs pour participer au logiciel libre. Alors pourquoi des entreprises, des organisations payent des gens pour donner gratuitement, hein, pour travailler, produire du code et le donner à qui veut, éventuellement à leurs concurrents. Alors on revient sur ce que c'est un logiciel. Un logiciel, on a l'impression qu'on, quand on achète ou on le télécharge, qu'on télécharge une version et c'est fini en fait. C'est jamais le cas. Vous savez très bien qu'il y a tout le temps des mises à jour. Vous savez très bien qu'il y a des évolutions techniques. Il y a aussi des évolutions de besoins. Comment vous faites si vous voulez utiliser un logiciel libre mais qu'il ne fait pas ce que vous voulez qu'il fasse? Il n'est pas compatible avec votre système d'information dans votre entreprise. Ou vous voudriez que ça soit un logiciel qui vous permette d'envoyer un mail d'une telle manière et qui corrige les fautes, par exemple en breton, et il n'y a pas la correction en breton. Tous ces besoins-là exprimer, si vous voulez pousser un logiciel en fait dans votre direction, si vous voulez qu'il soit adapté à vos besoins ou corriger un bug, une erreur, vous devez le faire vous. Et donc les entreprises ont intérêt, quand elles utilisent des logiciels, à avoir des gens qui participent pour faire les modifications dont elles ont besoin, pour travailler sur les adaptations dont elles ont besoin, et finalement pour faire évoluer le projet dans les directions qui les intéressent. On a dit, un logiciel libre, vous pouvez le récupérer, l'installer dans votre entreprise ou chez vous. Mais si vous ne savez pas faire ou si vous n'avez pas le temps, vous allez payer une entreprise pour le faire pour vous. Si vous avez une erreur, ou si vous détectez un bug, ou si vous avez un problème d'adaptation, ben vous allez payer une entreprise qui va modifier le logiciel pour vous. On a le droit, hein, je vous rappelle, c'est un logiciel libre, vous avez le droit de le faire. Mais qui va aussi sans doute reverser cette modification au projet. Et pourquoi on va reverser cette modification au projet ? Parce que si on ne le fait pas, ben le projet, lui, va continuer sa vie, va évoluer, il y aura d'autres modifications qui vont arriver, etc. Et vous, votre modification, là, qui est chez vous, elle ne va plus être compatible avec ces évolutions. Donc, vous allez devoir le refaire. Donc, il est toujours plus intéressant, quand on fait une modification, une adaptation, d'essayer de ce qu'on appelle de la pousser, de la faire prendre en compte par le projet, par ce qu'on appelle une version officielle du projet, ce coma, là, cette décision, pour qu'il soit dans le code du projet, le code du logiciel, le code officiel, et donc qu'il soit maintenu. Que dans 2 ans, 3 ans, votre modification, elle est toujours là. Si on a besoin d'adapter parce que le logiciel évolue, ben quelqu'un d'autre le fera peut-être. Donc pour résumer, on participe au logiciel et au logiciel libre parce que le logiciel, c'est une production dynamique. Avec un collègue, Robert Vizer, on a appelé ça un logiciel flux. Hein, plutôt que quelque chose, ce qu'on achète, c'est plus ça aujourd'hui qu'un logiciel stock, la fonctionnalité intentée.
Ces logiciels flux par rapport à ces logiciels stock, la différence repose essentiellement dans la relation entre l'utilisateur et les développeurs.
Alors, plus généralement, quand on parle d'un logiciel, on parle de ce que c'est le logiciel à un moment donné, le logiciel stock, et bah, le fait qu'on doit tout le temps le faire évoluer, l'adapter, et que le logiciel libre, le projet de logiciel libre, c'est de gérer cette adaptation, de gérer le flux des nouveaux besoins, le flux des évolutions, et donc gérer le logiciel flux. C'est plus dans ce sens-là qu'on parle de logiciel stock et de logiciel flux. Pourquoi on parle de ça ? Parce que souvent, on a l'impression qu'on achète un produit logiciel, donc un stock. Et en fait, ce qu'on achète de plus en plus, c'est effectivement une fonctionnalité, mais une fonctionnalité entretenue, maintenue dans le temps. Et donc, le fait qu'il y ait ce logiciel flux derrière.
Dans ce modèle qui a l'air très collaboratif de production des logiciels libres, est-ce qu'on attend forcément de l'utilisateur de contribuer à l'évolution du logiciel?
Comme dans tout projet de coma numérique, pensez à Wikipédia. Là, je pense que tous nos auditeurs ne sont pas contributeurs à Wikipédia. Pourtant, tout le monde utilise Wikipédia et les contributeurs à Wikipédia sont contents d'avoir de l'audience. Ils ne sont pas forcément intéressés de savoir ce que cette audience veut et ils ne vont pas travailler pour cette audience. Ils vont travailler pour écrire ce qui leur plaît. Et il se trouve que ce qui leur plaît peut être utile à d'autres gens. C'est un petit peu la même chose sur le logiciel libre. Les gens qui vont contribuer, je vous ai expliqué, ils contribuent parce qu'il y a des défis intellectuels à relever ou ils ont besoin d'une fonctionnalité et en gros, ça leur coûte moins cher de le faire eux-mêmes que d'attendre que d'autres le fassent ou de convaincre d'autres à le faire. Alors, faire eux-mêmes ou de payer une entreprise pour le faire. Ça va plus vite, c'est fait, c'est mis dans la version officielle, on en est débarrassé. Si vous n'avez pas les compétences en informatique, si vous ne savez pas développer, vous n'allez pas développer un logiciel libre. À la limite, dans une organisation d'un coma, on va mettre en place des filtres pour vérifier que vous êtes capable de produire des choses qui soient de qualité, qui soient utiles. Sinon, vous voyez bien que vous faites perdre le temps à tout le monde. Vous faites des choses que vous comprenez mal. Les développeurs qui gèrent le projet vont vérifier ce que vous faites, se rendre compte que ce n'est pas bien. Éventuellement, vous allez introduire des erreurs et donc, il va falloir les enlever. Vous recorrigez vos erreurs derrière, donc vous faites perdre du temps à tout le monde. Donc non, un projet de logiciel libre, comme tout projet de commun et de commun numérique, en fait, tout le monde ne contribue pas. Tout le monde n'a pas le droit de contribuer. Il faut bien comprendre que c'est un droit, que c'est une autorisation. Que contribuer, ça permet d'accéder à des choses, à faire en sorte que le logiciel soit plus adapté à vos besoins. Si vous ne savez pas faire, si vous ne pouvez pas faire, on vous laisse le droit d'utiliser, mais vous devez utiliser le logiciel comme il est. Vous ne pouvez pas demander ou espérer qu'il soit modifié selon vos besoins. En tout cas, ça sera beaucoup plus long. Donc non, tout le monde ne contribue pas. Heureusement, il est clair que ceux qui ne contribuent pas ont moins de voix au chapitre sur l'évolution du projet, voire pas du tout.
Effectivement, intuitivement, comme dans le cas de Wikipédia, on imagine bien qu'un contrôle est nécessaire. Comment s'exerce ce contrôle ? Qui l'exerce ?
Alors, il y a différentes modalités pour mettre en application ce que je vais vous raconter. Mais en gros, Comment ça fonctionne? Ça fonctionne un petit peu comme Wikipédia, c'est pas très différent. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu Wikipédia, c'est plus facile de contribuer à Wikipédia, on a l'impression. On a besoin de moins de connaissances. Mais en gros, quand vous contribuez avec Wikipédia, vous faites une modification. Donc vous allez chercher de l'information, vous cherchez des sources, vous faites une modification, vous l'écrivez, et c'est en ligne. Le contrôle est a posteriori. Dans le logiciel libre, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que si vous avez un besoin ou si vous avez une erreur, ben vous allez corriger cette erreur, donc faire le programme, vérifier chez vous en gros que ça marche, et ensuite le proposer au projet. Donc il y a des canaux informatiques, hein, je vous ai parlé des systèmes d'information comme GitHub ou GitLab qui permettent de faire une proposition, de pousser une contribution, on appelle ça. Et ensuite, cette proposition, elle est vérifiée. Elle est vérifiée selon différents niveaux. Soit il y a des outils automatiques de vérification, soit vous, en fait, vous proposez le projet à quelqu'un qui va relire, soit vous faites votre proposition et vous faites des tests. Donc vous lancez le logiciel, il y a un certain nombre de tests pour voir s'il fonctionne bien, etc. Donc il y a des tests qui sont aussi bien techniques que humains avant que cette proposition soit intégrée au projet. Certaines personnes qui ont un peu d'antériorité dans un projet peuvent modifier le projet directement. On leur fait confiance. Ils ont gagné un certain niveau de responsabilité qui fait que vous avez le droit. Mais si vous débutez, si vous, demain, vous essayez d'aller faire une modification dans Linux, dans le noyau Linux, il est fort probable que vous n'y arriviez pas parce que, déjà, c'est très compliqué de comprendre le noyau, mais surtout où il faut faire cette modification, à qui s'adresser. Et puis, si vous le faites, ben, quelqu'un vous vérifiera ce que vous avez fait avant que ça soit intégré.
Vous avez développé un petit peu au début le modèle du logiciel libre qui, en gros, fonctionne sur l'accès à une licence. Mmh. On a l'impression que, du coup, ce modèle, il peut évoluer. Est-ce que les logiciels libres sont développés essentiellement donc, par des institutions, mais aussi parfois par des entreprises? Est-ce qu'on peut décider à un moment de monétiser, de passer sur un modèle qui ne sera plus libre?
Alors, une fois de plus, il faut bien distinguer la partie accès, donc licence, autorisation d'utiliser un logiciel, autorisation d'accéder aux sources, etc., etc., donc la licence libre, de la monétisation qu'on peut en faire derrière. Une entreprise qui, un éditeur de logiciel libre, ça existe, une entreprise qui propose un logiciel qui permet d'accéder aux sources, éventuellement qui permet à d'autres contributeurs de participer, elle le fait parce qu'elle est intéressée pour avoir justement des contributions de ses utilisateurs. Ça lui permet finalement d'avoir des remontées de besoins déjà faites. Hein, puisque si vous contribuez, vous dites « Ah, j'ai besoin de ça, voilà, j'ai fait le développement, est-ce que vous pouvez l'intégrer ?» Donc, c'est pour ça qu'une entreprise, par exemple, peut proposer un logiciel libre. Il faut savoir que les deux grands projets de développement de logiciels d'intelligence artificielle et de réseaux de neurones notamment, sont portés par Google et Facebook. C'est les deux grands projets et ce sont des projets libres. Donc, ils ont intérêt à ce que la recherche contribue. Quand un chercheur a une nouvelle proposition, un nouvel algorithme plus efficace, ben, il va le mettre sur cette bibliothèque-là. Comme ça, tout le monde va pouvoir le tester, il va pouvoir prouver que ça marche, et on va pouvoir faire des benchmarks, etc. Et évidemment, ben, Google et Facebook, derrière, vont pouvoir le récupérer. Ce qui est intéressant dans l'analyse de données, ce n'est pas tellement l'algorithme, c'est important, mais c'est les données. Donc l'algorithme, ils sont d'accord pour que ça soit fait, tout le monde collectif, c'est un effort collectif. Évidemment, les données, par contre, c'est eux qui les ont et ils ne les mettent pas à disposition de tout le monde. Donc, voilà une manière pour une entreprise d'utiliser du logiciel libre. Comme je disais aussi, il y a des entreprises qui sont éditrices de logiciels libres. On peut citer par exemple Odoo, c'est une entreprise qui fait un logiciel, un ERP, un logiciel de gestion des entreprises. C'est le concurrent de SAP, que les gens connaissent un petit peu mieux. Et Odoo, c'est une plateforme qui est libre. Il y a aussi des logiciels de gestion de sites web ou de e-commerce. Donc Odoo, eux, ce qui les intéresse, c'est toujours pareil, c'est d'avoir des remontées d'utilisateurs qui vont pouvoir faire des propositions de besoins et qui sont intégrées. Donc ça, c'est la première chose. Ce que vendent ces éditeurs, c'est souvent des versions qui sont certifiées du logiciel. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser le logiciel libre si vous voulez l'implémenter chez vous, suivre les évolutions et tout, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas le temps, moi, en tant qu'Odoo, en tant qu'éditeur, je vais vous facturer ce service. Hein, je vais vous dire, ben voilà, on va vous mettre un logiciel dans votre entreprise, on va vérifier que tout fonctionne bien. On sait quelle vous mettre ce qu'on appelle des packages pour que vous ayez les fonctionnalités qui vont bien et on vous garantit que tout ça fonctionne bien. Et s'il y a un problème, on vous garantit que le problème sera résolu en une heure, deux heures, une journée, suivant ce que vous êtes prêt à payer. Évidemment, quand on est éditeur d'un logiciel libre, qu'on contrôle le projet, l'évolution du projet, c'est plus facile de faire ces garanties-là que si vous êtes extérieur au projet. Donc naturellement, les clients qui ont besoin de cette garantie, que le logiciel marche et que on soit sûr que s'il y a un problème, il soit réparé, vont aller chez Odoo. Une fois de plus, ce qu'on vend, c'est le logiciel flux. Cette idée qu'un logiciel, ça doit évoluer, qu'il peut y avoir des erreurs, qu'on peut avoir des nouveaux besoins. Et on va payer une entreprise pour s'assurer que tout ça soit géré et qu'on ait finalement une garantie. Alors, le modèle, j'ai envie de dire, c'est pas seulement qu'il a toujours un avenir, c'est que c'est un modèle en fait qui est en train de s'imposer de plus en plus dans l'industrie où, si vous regardez les logiciels, vous payez de moins en moins de logiciels. Vous faites de plus en plus des abonnements. Vous abonnez à un service. Si ceux qui utilisent Adobe, par exemple les suites Adobe aujourd'hui, c'est un service. Vous payez tous les ans un abonnement à Adobe. Quand vous utilisez le logiciel de cloud, donc les services sur le cloud, et bien en fait vous abonnez à l'usage plus qu'au logiciel. Donc on est de moins en moins en train d'acheter un produit, ce logiciel stock dont je parlais, et on est de plus en plus en train de payer une fonctionnalité. Ce qu'on appelle en économie, alors ça c'est Jean Gadret, un grand économiste français du nord de la France, qui a appelé ça une capacité technique entretenue. Quand vous voyagez, vous en fichez de quel avion vous prenez. Ce que vous achetez à Air France, c'est la capacité de vous projeter de Brest à Lyon, par exemple, ou à la SNCF, de vous transporter d'un point à un autre. Et de la même manière, quand aujourd'hui, vous en fichez que ça soit Microsoft Word ou LibreOffice, ce que vous voulez, c'est un éditeur de texte qui fait ce que vous voulez et vous allez l'utiliser en ligne ou chez vous. Et ben, finalement, si vous êtes prêt à payer pour ce service, que ce soit un logiciel libre derrière ou pas, vous vous en fichez un petit peu en tant qu'utilisateur final. Ce qui vous intéresse, c'est que ça marche. Pour le fournisseur de services, ça peut être plus intéressant d'utiliser un logiciel libre, puisqu'il partage les développements. Il y a plusieurs personnes qui s'assurent que le logiciel évolue bien. C'est souvent plus innovant si vous avez des utilisateurs avancés qui sont capables, eux, de contribuer. Donc c'est un modèle qui est, en fait, souvent plus efficace d'un point de vue économique, aussi pour les fournisseurs de services.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des modèles mixtes à la fois de logiciels flux et de logiciels stock ?
Alors ça, c'est vraiment intéressant comme question parce que c'est au cœur des problèmes des éditeurs de logiciels libres qui, en gros, ouvrent le son au cœur d'un projet et sont ouverts aux contributions de leurs utilisateurs. Ça leur permet de sous-traiter une partie de la recherche des nouveaux besoins. Et puis ça leur permet d'assurer aussi d'animer une communauté. Mais ça veut dire que si le logiciel n'évolue plus, le logiciel flux, comment on fait pour financer la maintenance? Il y a toujours des recherches de bugs. Et à quoi sert cette communauté? Si cette communauté d'utilisateurs, elle propose moins de choses. Pour un éditeur, parfois, quand le logiciel devient mature, parce qu'un logiciel, comme tous les logiciels, un logiciel libre ou pas, ça évolue, ça naît, ça grandit, parfois, pas toujours. Et puis, ça peut être mature, voire mourir. Mais du coup, quand un logiciel libre devient mature, eh bien, on a moins besoin de gens à contribuer. On a une dynamique qui est moins forte. On a une communauté qui est moins utile pour un éditeur. Et souvent, l'éditeur aura tendance à abandonner l'animation de cette communauté parce que ça coûte cher. Il faut maintenir des plateformes, il faut traiter les bugs, tout ce que j'ai expliqué, autoriser, prendre, ne pas prendre. Tout ça, ça coûte cher pour un éditeur, même de logiciels libres. Et donc, l'éditeur aura souvent tendance à ne plus s'occuper de sa communauté, à refermer le logiciel d'une certaine manière, à produire tout en interne et à se désintéresser un petit peu de ce logiciel flux pour vendre directement, s'intéresser plus à ses utilisateurs. Le risque étant que parfois on a ce qu'on appelle des forks, c'est-à-dire que si la communauté estime qu'elle a encore besoin de faire évoluer et que celui qui anime, donc par exemple l'éditeur, n'est plus à niveau, eh bien elle va prendre le code, elle a le droit, et puis elle va faire un projet à côté. Un exemple célèbre, c'est OpenOffice, Donc OpenOffice, c'est une suite de logiciels pour éditer, de tableurs, faire du traitement de texte, etc., qui est le concurrent en gros de Microsoft Office. Eh bien, OpenOffice a été créé par Sun, une entreprise qui faisait des ordinateurs dans les années 80, qui a été rachetée par Oracle, une grosse entreprise d'informatique et de logiciels, qui a laissé tomber un peu cette animation sur OpenOffice. Ça l'intéressait moins. Ce n'était pas au cœur de sa stratégie. Eh bien, il y a eu un projet de fork qui s'appelle LibreOffice. Et aujourd'hui, c'est LibreOffice qui existe, qui est toujours animé par une communauté, qui fonctionne. Et OpenOffice n'existe quasiment plus. Donc oui, on peut avoir des modèles mixtes. Mais souvent, ces modèles, c'est quand même, quand on parle de logiciel stock, c'est vendre en fait l'accès au logiciel, mais l'accès au logiciel maintenu, ce que je disais tout à l'heure. Donc on ne va pas juste vous donner s'autoriser, on va vous faire une garantie sur plusieurs années ou une répétition. C'est ça un peu les modèles mixtes. Mais pour un logiciel qui devient mature ou en fin de vie, effectivement, la partie projet libre disparaît. Et avec cette partie projet libre qui disparaît, ben, ceux qui vendent se tournent plus vers la vente d'accès classique pour gagner leur vie.
Sur la phase de développement, on a pourtant l'impression qu'il y a une vraie dépendance de l'éditeur à sa communauté, bien sûr.
En fait, c'est vraiment ça l'idée du projet libre et de cette dynamique. C'est que quand vous développez, vous initiez un logiciel au début, je reprends l'exemple de Linus Torvald, eh bien, ce logiciel, il fait quasiment rien. C'est juste plus un projet. Mais vous voyez bien qu'un noyau de système d'exploitation, ça permet de faire beaucoup de choses derrière. Et donc, bah, il faut développer le logiciel. Il y a plein de choses à faire. Quand il y a plein de choses à faire, c'est intéressant d'avoir une communauté qui propose ces choses. Chacun est un peu spécialiste de certains besoins ou de problèmes techniques. Et donc, plus un logiciel est dynamique, plus dans une phase de développement, plus cette idée de logiciel libre, de projet collectif, est intéressante en termes de capacité de tous ensemble de produire quelque chose. Quand on a développé la plupart des besoins, quand le logiciel est relativement stable, eh bien, on voit bien que les besoins sont moins importants, on a moins besoin de contributions extérieures. Souvent, dans la vie d'un logiciel, ce qui se passe, c'est qu'on a un premier développement, on commence, des idées, tout ça, puis il y a une phase de structuration. On va structurer l'équipe de production, les outils dont j'ai parlé, les guides, les choses comme ça, mais aussi l'architecture du logiciel. Un logiciel s'est construit souvent de façon modulaire. Vous avez un centre qui s'occupe des fonctions principales, et après des périphéries, ce qu'on appelle des packages, qui répondent à différents services. Si on reprend l'exemple d'un ERP, donc un système de gestion des entreprises, vous savez qu'un ERP, ben, il y a un centre central où il y a des informations, pour aller très vite, et puis vous avez après un module paye, un module RH, un module vente, un module CRM, etc. Ben, dans un logiciel, c'est un peu cette idée-là. Donc, vous allez développer le centre, les informations, la base, et puis après, vous allez développer les modules. Dans la vie d'un logiciel, et donc d'un logiciel libre, souvent, on commence par le centre pour avoir les fonctionnalités de base, et puis petit à petit, quand le logiciel devient plus mature, ben, l'effort de production, de collaboration, se déplace vers les modules pour développer des nouveaux besoins, répondre à des nouveaux besoins. L'éditeur, lui, va assurer que ce centre et les modules fonctionnent bien ensemble, éventuellement les sélectionner, vendre ça, et peut y avoir des entreprises périphériques qui vendent des modules. Et vous voyez bien qu'on va se déplacer, et si les modules à leur tour deviennent matures, il y a de moins en moins d'intérêt pour l'externalisation finalement, la recherche d'innovation ou l'externalisation de la recherche des besoins, recherche et production.
Qu'est-ce qui fait alors dans le cycle de vie d'un logiciel qu'un logiciel, plus qu'un autre ou moins qu'un autre, va arriver à maturité ?
Donc, plusieurs choses jouent énormément et bon, c'est vrai que bon, là, il y a encore pas mal de recherches, c'est un peu incertain. Pourquoi un projet de logiciel libre réussit plutôt qu'un autre ? Quand vous avez des besoins, des nouveaux besoins qui s'expriment, souvent il y a plusieurs projets de logiciel libre qui sont concurrents, qui commencent. Certains grandissent, d'autres non. Donc, je rappelle, hein, quand on parle de logiciel libre et de projet de logiciel libre, il y a cette idée d'un logiciel qui est disponible avec une licence libre. Si vous allez sur GitHub ou GitLab, la plupart des logiciels sont produits par une personne à un moment donné et certains sont abandonnés. Donc ça, c'est des logiciels dangereux qu'il ne faut pas utiliser. Ils ne sont pas maintenus. S'il y a un bug, c'est tant pis pour vous. Si vous voulez utiliser des logiciels libres, faites attention. Et c'est là que ça devient technique et que bah, quand on n'est pas outillé, on va faire appel à des fournisseurs. Qu'un logiciel libre soit un projet de logiciel libre, que plusieurs développeurs soient là, que le logiciel soit toujours en activité, qu'il y ait des nouvelles contributions, donc qu'il soit ce qu'on appelle maintenu. Donc il y a toutes ces choses-là à regarder. Alors pourquoi certains projets sont plus grands que d'autres ? Parce que les besoins sont plus vastes. C'est pas la même chose de développer un projet de noyau de système d'exploitation ou de distribution que de développer un projet d'un logiciel qui va compter les moutons dans un champ. Bon, même si là, on peut le faire avec des caméras, enfin, on voit bien qu'on peut imaginer, mais vous voyez, la taille du projet, les ambitions du projet peuvent jouer. D'autres choses qui jouent, qui porte ce logiciel ? Si c'est vous ou moi et qu'on n'est pas connu, ça sera plus difficile de trouver des collaborateurs. Si vous êtes un contributeur connu déjà dans la communauté, que vous lancez un nouveau projet, il est possible que des gens vous suivent. Et donc, que vous ayez rapidement une équipe de développement. Si vous êtes une grande entreprise comme Google ou Facebook ou alors Meta ou X Twitter, ben peut-être que vous allez pouvoir mettre des développeurs et donc avoir un noyau de contributeurs qui lancent le projet de manière plus facile. Donc il y a ces efforts-là qu'on est prêt à mettre. Il y a sans doute un petit peu de chance aussi, de capacité à animer. Et puis, la dernière chose qui joue beaucoup, c'est très important, c'est qu'un projet de logiciel libre, c'est un projet de développement logiciel. Développer un logiciel, c'est un métier. En termes de technique, d'organisation de la contribution, de gestion des contributions, de qualité du code qu'on organise et qu'on gère, de capacité à accepter ou non des propositions, des choix techniques, donc à refuser aussi des propositions sans que les personnes se fâchent et partent. Donc c'est vraiment un système socio-technique, et en tant que chercheur, c'est ça qui est aussi intéressant, d'animation d'un projet de développement. Et donc, certains sont plus doués que d'autres. Certaines équipes sont plus douées que d'autres pour accueillir et pour grossir. Et ça explique aussi le succès de certains logiciels ou d'autres. Après, les variables qui jouent sont assez difficiles à identifier.
Quels sont justement les sujets de recherche qu'on peut trouver autour de ce modèle des logiciels libres ?
C'est très, très vaste. Il y a beaucoup de recherches aussi bien techniques et que organisationnelles ou économiques. Alors moi, je suis économiste, je parlerai plus de la partie socio-économique, socio-organisationnelle. Mais il faut savoir que les écoles de l'IMT sont assez à la pointe sur ces éléments-là. Il y a des gros projets de recherche sur le génie logiciel et la production collective à Télécom Paris, par exemple. Beaucoup aussi d'écoles de l'institution Minitélécom portent des projets de logiciels et développent des projets de logiciels qui sont parfois des logiciels libres. Donc, sont en même temps analysent le logiciel, mais aussi proposent des logiciels qui peuvent être des logiciels de recherche en logiciel libre et animent des communautés. Moi, ce qui me concerne, mon travail se centre principalement sur ces questions de pourquoi des gens contribuent. Et comment, finalement, un projet de commun numérique, je travaille aussi sur Wikipédia, doit en fait gérer ses contributions. C'est-à-dire le travail de Wikipédia ou d'un logiciel libre, c'est autant d'attirer des contributeurs que de leur dire non. De sélectionner, de refuser, d'organiser pour que ça fasse un tout cohérent. Donc là, on vient de faire, avec dans le cadre de Marsan et avec l'Observatoire Omni, on vient de faire une enquête sur Wikipédia. Justement sur les lecteurs et les contributeurs de Wikipédia. On a 10 000 réponses dans 7 langues sur ces idées de pourquoi vous contribuez, notamment, comment vous contribuez et est-ce que vous pensez que la régulation, la gouvernance de Wikipédia est bien faite. Donc on aura des résultats au cours de l'année 2024 qui, je pense, sont intéressants et qui informeront aussi sur la fonction, sur la manière dont le logiciel libre fonctionne. Et puis l'IMT est impliqué dans un gros projet de recherche qui s'appelle Ensemble, donc qui est un PEPR, et dont le but, c'est de réfléchir ce qu'on appelle le futur de la collaboration. Donc réfléchir justement, alors moi, dans ce projet, je m'occupe particulièrement de ces collaborations en ligne. Comment on travaille en ligne ? Comment on s'organise pour travailler en ligne ? C'est quoi une bonne équipe pour produire de la bonne connaissance ? Donc une bonne connaissance, ça peut être une connaissance scientifique, ou un logiciel libre, ou une encyclopédie. Donc c'est quoi ? Est-ce qu'il faut des gens qui sont spécialistes du sujet ? Est-ce qu'il faut plutôt des gens qui sont spécialistes de la plateforme ? Donc des questions comme ça. Donc comment on crée une bonne équipe et comment on analyse l'évolution de cette équipe. Et donc tout ça, on fait dans le cadre du PEPR ensemble avec d'autres institutions, l'INRIA, l'Université de Grenoble, le CNRS et l'Université Paris-Saclay. Il y a d'autres partenaires comme l'Université de Lyon, l'Université de Toulouse. Enfin, c'est vraiment un effort collectif qui est porté pour comprendre mieux comment on fonctionne. Et puis aussi, dans le cadre de Marsoin, moi, je travaille avec des collègues de l'Université de Rennes, par exemple, sur ces questions de modèle économique du logiciel libre ou des collègues de l'UBO. Sachant que mon principal collaborateur sur le logiciel libre, c'est un collègue qui est à l'Université de Mons, en Belgique. Vous voyez, c'est vraiment un sujet où on a besoin d'efforts collectifs. Ça ressemble à du logiciel libre, finalement. Hein. Chacun apporte sa petite pierre et tous ensemble, on essaie de construire une connaissance de ces groupes collectifs, de ces fonctionnements collectifs.
Et de manière ouverte.
Et de manière ouverte, puisqu'on publie, c'est de la science ouverte, tout à fait.
Donc un sujet très transdisciplinaire.
Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est un des gros avantages de l'Institut, d'avoir ces visions différentes dans les mêmes murs.
Qu'est-ce qui pourrait finalement être un frein à ce type de modèle? On parle notamment de la loi européenne Cyber Resilience Act, qui pourrait être menaçante.
Alors, la loi européenne, d'après ceux qui promeuvent le logiciel libre, elle a un problème parce qu'en fait, elle oblige le fournisseur du logiciel à garantir le bon fonctionnement de ce logiciel. Il s'engage d'une certaine manière au bon fonctionnement du logiciel. C'est évidemment plus compliqué, diront les promoteurs du logiciel libre, si plusieurs personnes contribuent, si c'est un projet. Déjà, qui est responsable juridiquement? Comment on fait pour garantir en fait ces choses-là? C'est vrai que c'est une loi qui enfin, ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'elle n'a pas bien compris cette idée de logiciel stock et de logiciel flux, et elle n'a pas bien compris ce problème qu'il y a toujours des évolutions, qu'un logiciel, il peut y avoir souvent des bugs. Ceci étant dit, le fond de la loi n'est pas forcément contesté, et c'est vrai qu'il n'est pas normal qu'un logiciel soit développé avec des bugs. Il y a aujourd'hui des outils d'analyse automatique, et notamment des outils français comme le logiciel Coq qui a été développé à l'INRIA, qui permettent de tester, de vérifier que les logiciels fonctionnent bien, sont bien développés, il n'y a pas d'erreur de logique dans la programmation. Et donc, ça permet d'éliminer un certain nombre de bugs. Donc, je dirais que l'intuition de la commission est bonne. Il faut forcer les fournisseurs de logiciels et les fournisseurs de services à être plus sérieux sur la qualité des logiciels produits. Après, il faut réfléchir aussi à ce que ça veut dire d'un point de vue juridique et d'un point de vue responsabilité sur des plateformes qui sont développées en commun et qui sont à la base des logiciels. Donc, je pense que c'est un débat qui est intéressant, qui est complexe et sur lequel le juriste et donc le législateur doit faire attention à ce que c'est vraiment aujourd'hui le fonctionnement d'un logiciel.
Donc a priori, les logiciels libres ont de beaux jours devant eux. Merci Nicolas, Julien.
Ben, merci à vous et réfléchissez quand vous utilisez un logiciel aux droits que vous avez et à l'évolution de ces logiciels.
Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis sur ce sujet des biens communs et plus spécifiquement des logiciels libres. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de l'Apostrophe sur Spotify, Deezer et le site web d'Aimtech, le média d'actualité scientifique et technologique de l'Institut Mines-Télécom. À bientôt pour un nouvel épisode. Merci Nicolas, Julien.